Deutéronome. Bon, c'est pas mal de fêter, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si vous y voyez qu'en avant ici, c'est il manque du monde ce matin, bien c'est simplement pour vous rassurer qu'ils sont pas malades, mais qu'ils ont fêté, qu'ils ont célébré, et on rend gloire à Dieu pour les célébrations. Alors, dans le livre du Lévitique, merci, Deutéronome, chapitre 11, oh, ça va être long ce matin, hein? Alors, je vais essayer d'aller encore plus lentement que la semaine passée, parce qu'on a une sœur ici qui ne parle que le polonais, et vous l'avez entendu dans la prière, et on a quelqu'un qui va la traduire, donc c'est pas facile. Je ne suis pas facile à traduire, donc je vais essayer d'être... Les gens en français, vous avez de la difficulté à me comprendre. Alors, je vais essayer d'aller lentement et de ne pas faire trop de parenthèses. Alors, Deutéronome, chapitre 11. Pour ceux qui ont leur Louis II, pour ceux qui ont une Darby, je vais la lire en français courant. C'est plus facile à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués au langage strictement évangélique. En commençant par le verset 1 jusqu'au verset 12. Aimez le Seigneur votre Dieu, servez-le et mettez toujours en pratique ses lois, ses règles et ses commandements. En cet instant, je ne m'adresse pas à vos enfants qui n'ont ni vu, ni expérimenter la façon dont le Seigneur, votre Dieu, a fait sentir sa puissance. Mais à vous-même, qui avez été témoin de sa grandeur, de sa puissance irrésistible et de ses miracles. Ce n'est pas le but de notre prédication ce matin, de notre message, mais on pourrait rendre témoignage de la même chose pour chacun de ceux qui sont nés de nouveau. On était témoins. Comment Dieu a fait ressentir sa puissance à l'intérieur de nous. Comment Dieu a fait manifester sa grandeur. Et comment il a accompli un miracle dans nos vies, parce que la nouvelle naissance, c'est toujours un miracle. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous toucher. Et c'est Dieu qui transforme nos vies. C'est Dieu qui nous donne une nouvelle paire de yeux. C'est Dieu qui nous donne une nouvelle bouche, une nouvelle façon de parler. Et c'est Dieu qui nous donne aussi des mains et des pieds pour le servir. C'est magnifique. Et le Seigneur est intervenu en Égypte contre le Pharaon, roi des Égyptiens, et contre son pays. Il est intervenu contre son armée, ses chevaux et ses chars, en ramenant sur eux l'eau de la mer des roseaux quand ils vous poursuivaient, et il les a fait disparaître pour toujours. Il est intervenu en votre faveur dans le désert pour vous permettre d'arriver ici. Verset 6. Il est intervenu contre Dathan et Abiram, les fils d'Éliab de la tribu de Ruben. Devant tous les Israélites, la terre s'est ouverte et les engloutit avec leurs familles, leurs tentes et tous ceux qui avaient pris leur parti. Oui, vous avez été témoin des interventions grandioses du Seigneur. Mettez donc en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Vous y trouverez les forces nécessaires pour prendre possession du territoire dans lequel vous allez entrer. Et vous pourrez alors vivre longtemps dans le pays que le Seigneur a juré de donner à vos ancêtres et à leurs descendants, ce pays qui regorge de lait et de miel. Le pays dont vous allez prendre possession n'est pas comme l'Égypte que vous avez quittée. Là-bas, après les semailles, il fallait irriguer les champs, comme on le fait pour un jardin potager. Par contre, le pays dont vous prendrez possession est un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont le Seigneur, votre Dieu, prend soin et sur lequel il garde les yeux fixés du début à la fin de l'année. Et notre texte ce matin, eh bien, c'est le verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois ce matin, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour cette parole que tu nous as donnée. Te rendons grâce aussi, Seigneur, parce que nous savons que tu es là ce matin, que tu es présent. Que toute personne ici dans ce lieu ce matin n'est pas là suite au hasard, mais que depuis toute éternité, Seigneur, tu lui avais donné rendez-vous. Et Seigneur, lorsque tu donnes rendez-vous, c'est parce que tu veux avoir un cœur à cœur avec ta créature. Et ce matin, eh bien, nous te supplions, nous te prions, Seigneur, de parler à nos cœurs. Fais en sorte que nos cœurs soient réceptifs. Fais en sorte que tes enfants, Seigneur, puissent grandir en connaissance et dans leur foi de la personne de Jésus-Christ. Mais fais en sorte aussi que ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, puissent, Seigneur, saisir cette opportunité que tu leur offres de pouvoir découvrir, Seigneur, la personne de Jésus-Christ. Mort, Seigneur, sur cette croix pour nos péchés, ressuscité pour la vie éternelle et qui revient bientôt. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta patience. Et encore une fois, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse agir dans chacun de nos cœurs ce matin. Et c'est au nom de Christ que je te prie, Père. Amen. 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 Les Israélites avaient séjourné pendant plus de 400 ans en Égypte. Et au chapitre 11, Moïse va les informer que le pays où il va les conduire ne ressemblait pas du tout au pays d'Égypte. Et il décrit ce pays comme étant un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont Dieu prend soin et pour lequel l'Éternel, votre Dieu, a continuellement les yeux fixés du commencement à la fin de l'année, leur dira-t-il. En Égypte, frères et sœurs, les Israélites étaient des esclaves et ils devaient compter sur eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins. Leur fardeau était devenu tellement lourd à porter qu'ils se trouvaient dans une situation désespérée. Les Israélites, depuis plus de 400 ans, ils vivaient en esclavage dans ce pays. Ils vivaient dans l'incertitude, dans la crainte, dans la tristesse, dans la désillusion et dans la déception. Ils savaient qu'ils ne retireraient aucune joie, aucun confort, réconfort, ni aucune bénédiction, tant et aussi longtemps qu'ils auraient le statut d'esclaves. Mais Moïse va leur rappeler qu'ils font maintenant partie du peuple de Dieu et qu'ils sont appelés à vivre par la foi et habiter dans un autre pays. Et frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle dans sa parole ce matin que nous aussi, nous sommes appelés par la foi à habiter dans un autre pays, mais que nous allons rencontrer les mêmes difficultés où on va vivre les mêmes épreuves, mais on va pouvoir les affronter différemment parce que le Père Céleste aura les yeux continuellement fixés sur vous, sur moi, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Vous dites amen à ça? Oui. C'est important qu'on se rappelle ça, frères et sœurs. Le Seigneur, il peut regarder partout en même temps. Donc, quand il se tourne la tête, il ne nous a pas. Il voit toujours mon frère Jean, notre frère Ernestus, il voit Michael Prové. C'est bien, merci Jean. Tu sais ce que c'est d'avoir plus de 60 ans, hein? OK. Que le Seigneur aurait continuellement les yeux fixés sur le pays qu'il leur donne chaque jour de l'année. Et frères et sœurs, ça nous rappelle une chose, c'est qu'on doit garder nos yeux fixés continuellement sur le pays que Dieu nous promet aussi de nous donner. Cependant, si Dieu a les yeux fixés sur ce pays, il ne peut faire autrement que d'avoir les yeux fixés sur ceux qui lui appartiennent et qui font partie de son peuple. Est-ce que ce n'est pas réjouissant, frères et sœurs, ce matin? Si la parole nous dit que Dieu, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, a son regard porté sur un pays, c'est sûrement pas la terre, c'est sûrement pas les arbres, c'est sûrement pas les lacs, les mers qui s'y trouvent, mais la créature qui vit dans ce pays. Et dans ce pays où les Israélites vont prendre possession, le Seigneur leur dit, rappelez-vous, je vais avoir les yeux fixés sur vous du commencement, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire à chaque jour de l'année, j'aurai constamment les yeux fixés sur vous. C'est pas extraordinaire de savoir que celui qui tient l'univers dans ses mains, or, présentement, les yeux fixés sur chacun de ceux qui leur appartiennent. Frères et sœurs, vous qui croyez, vous qui avez mis votre confiance en Jésus, vous qui avez dit non au péché, vous qui avez obtenu le statut qui marchait par la foi, vous allez savourer ce texte ce matin que nous venons de lire, parce que c'est aussi à nous que Dieu s'adresse aujourd'hui. Nous qui avons délaissé le monde, nous qui avons quitté le désert de condamnation et de crainte derrière nous. Nous sommes entrés dans le pays de Canaan par la foi et maintenant Dieu nous promet que dès le commencement de l'année, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de l'année, il aura les yeux continuellement fixés sur nous. Et ce, jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre. Nous allons maintenant examiner le texte tel qu'il est. Premièrement, j'aimerais qu'on regarde le premier mot qui retient mon attention dans ce texte, c'était le mot « yeux ». L'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. les yeux de l'Éternel. Et ici, l'auteur ne fait sûrement pas référence à l'omniscience de Dieu, puisque les yeux du Seigneur sont capables de voir le bien et le mal partout en même temps. Frères et sœurs, nous savons que Dieu a vu l'adultère de David, comme il a vu la trahison de Judas lorsqu'il s'est approché de Jésus pour l'embrasser. Tout comme il a vu la femme pécheresse qui a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes parce qu'il lui avait pardonné ses péchés. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, nous dit la parole dans Ésaïe. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, c'est-à-dire sur ceux qui craignent sa parole, pour se complaire et se réjouir en eux. Il ne fait pas seulement que les regarder, mais il les observe avec un soin et un intérêt particulier. Frères et sœurs, Dieu a son regard partout sur le monde, mais la parole nous rappelle que Dieu a un regard particulier sur ceux qui lui appartiennent. C'est pas merveilleux de savoir ça ce matin? Que Dieu, qui voit tout, a quand même un regard particulier sur ceux qui lui appartiennent. C'est magnifique de savoir ça. Ce que notre texte fait ressortir ce matin, c'est que si Dieu garde ses yeux sur nous, et ce, du commencement jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu aime le monde, oui, c'est parce qu'il nous aime. Je vais avoir une petite parenthèse, ça va permettre à Hélène de se rattraper dans la traduction. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, 10-12 ans, je n'avais pas nécessairement l'impression que mes parents m'aimaient, pour toutes sortes de raisons. Je pensais qu'ils ne s'occupaient pas vraiment de moi. Et un soir, on a décidé de sortir avec mes deux frères. On n'est pas allé loin, hein? On avait 12-13 ans, donc on se suivait, 13-12-11. On ne va pas loin avec ça, mais on est allé dans un parc, dans un terrain de jeu. On avait fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et j'ai compris que mon père, il m'aimait ce soir-là. J'ai compris que mon père, il avait son regard porté sur moi et qu'il m'aimait beaucoup. Parce que mon père, il m'a châtié beaucoup dans ma vie. Hein? Donc, ceux qui aiment bien, châtient bien. Et on avait fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et revenu à la maison, mon père a mis les choses au point, mais il nous avait dit que pendant toute la soirée, il nous avait suivis, qu'il ne nous avait pas quittés des yeux. Et finalement, que s'il nous punissait, eh bien, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'on avait fait. Et il nous avait repris. Mais moi, ça m'avait remarqué parce que j'avais l'impression que j'avais un père absent à la maison. Un père qui travaillait de nuit, donc il travaillait pratiquement 6 jours par semaine. Je n'ai jamais vu mon père prendre des vacances. Donc, il travaillait 6 jours par semaine, travaillait de nuit, dormait de jour, il fallait faire attention. Et là, ce n'est pas la punition qui m'avait marqué, mais plutôt cette conviction que mon père, il m'aimait. Que mon père, même s'il était fatigué, qui aurait préféré dormir, eh bien, il nous avait suivis pendant 3 heures. Il avait suivi nos pas à cachette. Il m'avait dit qu'il s'était caché derrière les arbres, derrière les voitures. J'espère que les voisins ne l'ont pas vu. Et pour nous surveiller, pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Et en fait, il voyait des choses qu'on avait faites avec lesquelles il n'était pas d'accord. Mais par contre, il tolérait pour éviter qu'on fasse le pire, en fait. Il tolérait, si ça dépassait vraiment la limite, eh bien, là, il serait intervenu. Et le Seigneur porte ses yeux sur nous pour une bonne raison. La première, c'est parce qu'il vous aime et c'est parce qu'il m'aime. Et j'espère que vous en êtes convaincus ce matin. Dieu ne garde pas ses yeux sur nous pour qu'au moindre manquement, on puisse recevoir une tape ou qu'on puisse nous jeter par terre. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Le plan de Dieu, c'est de nous porter ses regards sur nous du début jusqu'à la fin. Et la raison, il veut qu'on le sache, il veut qu'on s'en rappelle ce matin, c'est parce qu'il vous aime et c'est parce qu'il m'aime. Dites amen à ça. C'est important, ça. S'il avait eu besoin de nous condamner, s'il avait eu besoin de nous juger, Jésus ne serait jamais allé sur la croix. Dieu n'en avait pas besoin. Si vraiment il voulait nous condamner éternellement, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils Jésus. Mais il l'a envoyé, la parole nous dit dans Jean 3,16, parce que Dieu a tellement aimé le monde, il a aimé le monde de façon exagérée qu'il a envoyé son Fils. Alors, frères et sœurs, s'il y en a un innocent qui a payé le prix, c'est pas Dieu, Dieu ne veut pas nous condamner. Jésus nous a sauvés de la condamnation. Dieu nous aime malgré ce que l'on fait. Quand on fait mal, quand on pêche, Dieu ne nous aime pas moins. Dieu est attristé parce que son enfant pêche. Et quand on fait le bien, Dieu ne nous aime pas plus. Dieu nous aime de façon égale. Son amour, il ne change pas. Et quand on pêche, tout ce que Dieu veut, c'est qu'on revienne à lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner tout péché. Tout péché, frères et sœurs. Alors, si vous avez un poids sur la conscience ce matin, rappelez-vous que Dieu non seulement vous voit ce matin, mais il lit aussi dans vos cœurs à travers ses yeux. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas en règle ici ce matin, confessez votre péché, libérez-vous du poids de condamnation que le diable peut venir mettre sur vos épaules et surtout dans votre cœur. Parce que le Seigneur ne rejette personne qui vient à lui. Mais Dieu vous aime et Dieu ne rejette personne. Amen. Si Dieu aime le monde, il exprime cet amour différemment lorsque cela concerne ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui marchent dans la vérité. Rappelez-vous que si les yeux de Dieu sont sur vous, il le fait avec des yeux remplis d'amour, et ce, à partir du commencement jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Ça devrait vous rassurer et ça devrait vous réjouir ce matin. La mère inquiète de te voir son bébé être hospitalisé, est heureuse d'avoir une infirmière sur laquelle elle peut compter lorsque son petit est malade. Mais lorsqu'elle voit son bébé bouillant de fièvre, elle dira à celle-ci, « Je vais rester auprès de mon petit ce soir. » Et même si c'est la troisième ou la quatrième nuit, même si elle n'a pas encore dormi, elle ne fermera pas l'œil tant et aussi longtemps que la fièvre de l'enfant ne sera pas retombée ou n'aura pas disparu. L'enfant peut dormir en paix parce qu'elle gardera ses yeux continuellement fixés sur lui du commencement jusqu'à la fin de sa maladie. Et il en est de même avec Dieu, frères et sœurs. Il en est de même avec le Seigneur. Tant que le Père céleste ne nous rappelle pas à lui, il garde ses yeux fixés sur vous, fixés sur moi, du début jusqu'à la fin. Frères et sœurs, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté, nous dit Isaïe. À supposer qu'elle l'oublie, Dieu dit, « Moi, je ne t'oublie pas. » Et pourquoi? Parce que vos noms sont gravés dans mes mains. Ils ne sont pas écrits, ils sont gravés dans mes mains. Il n'y a personne qui peut effacer ce qui est gravé dans mes mains. Isaïe chapitre 49, les versets 15 à 16, pour ceux qui prennent des notes. Moi, ça me fortifie de savoir que mon nom est gravé dans les mains de l'Éternel. Amen. Lorsque je pense au texte que nous avons devant nous, je pense aux paroles de Moïse, lorsqu'il a dit à Dieu, dans Exode chapitre 33, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Et Dieu venait juste de lui dire, pour le rassurer, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Frères et sœurs, le repos dans la foi, savoir qu'on n'est jamais seul, savoir que Dieu nous accompagne en Jésus-Christ jour après jour, savoir que dans notre cœur, eh bien, ce qui peut remplir la solitude que le monde cherche à nous faire, dans laquelle le monde cherche à nous faire baigner, eh bien, le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les promesses de l'Éternel, pour nous rappeler les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. D'où l'importance de méditer les Écritures. Afin que quand il arrive des épreuves dans nos vies, le Saint-Esprit puisse se faire remonter à la surface de notre cœur, ce que nous avons médité, qui va nous réconforter, qui va nous encourager et qui va nous permettre de rester debout et aller de l'avant. Et si jamais on tombe, eh bien, la main de Dieu, le bras de Dieu n'est pas encore trop court, non seulement pour sauver, mais aussi pour nous relever et pour nous aider à marcher avec lui. Frères et sœurs, on n'est plus jamais seul en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez votre conviction ce matin? Plus jamais seul. N'est-ce pas rassurant pour nous de savoir que jamais au grand jamais, Dieu va déléguer à d'autres le secours et le réconfort qu'il peut lui-même apporter à ceux qui font partie de son peuple? Voilà pourquoi, si Dieu a continuellement les yeux fixés sur vous et sur moi, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, du commencement de notre vie jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous pouvons dormir en paix. Le Père céleste veille sur nous. Le psalmiste dit dans le psaume 33:12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme héritage. » Et le mot « héritage » ici dans l'hébreu, c'est comme son bien personnel. Ce n'est pas juste dire à un moment donné, « Je vais hériter. » Nous sommes déjà les héritiers. Mais le texte hébreu va beaucoup plus loin. Nous sommes son bien personnel. Personnel. Et Dieu ne se détachera jamais de son bien personnel. Dieu ne lèguera jamais son héritage à quelqu'un d'autre. Il a payé tellement cher pour acquérir cet héritage. Ça lui a coûté la vie de son fils. Jamais Dieu va abandonner ceux qui font partie de son héritage. J'espère que c'est votre conviction ce matin. Le deuxième mot qui a retenu mon attention dans le texte, c'est le mot « continuellement ». Regardez avec moi au verset 12. Les yeux du Seigneur sont continuellement, c'est-à-dire toujours, sur son peuple, et ce, du commencement jusqu'à la fin de l'année. Cela est tellement clair que nous ne pouvons pas imaginer que pendant un seul jour, une seule heure, une seule minute dans notre vie, Dieu puisse détourner son regard de nous. Frères et sœurs, il n'y a pas un seul moment dans une journée où nous pouvons nous permettre de nous passer de la présence de Dieu. J'ai essayé d'imaginer quel pourrait être le meilleur moment où quelqu'un pourrait se passer de Dieu. J'ai pensé que cela pourrait être pendant la période où tout va bien pour lui et que son patrimoine s'enrichit. Bien-aimé, peut-on vraiment se passer de Dieu même dans les jours de prospérité? Absolument pas. Car si nous tombons dans le piège de chercher à acquérir ce que le monde recherche et à nous enrichir, nous finirons par avoir le cœur rempli d'orgueil, le regard hautain, sans égard pour les autres, et même risquer d'abandonner Dieu. Demandez à ce chrétien d'un certain âge, avec toute l'expérience qu'il possède et qui a connu Dieu dans le passé, s'il peut se permettre de se passer de Dieu. Et il vous dirait qu'il serait extrêmement malheureux de se passer de Dieu, de devoir mettre Dieu de côté, parce qu'il reconnaît que c'est Dieu et Jésus-Christ qui l'ont aimé et qui lui ont donné, par sa grâce, un encouragement éternel et une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2:16, c'est ce que Paul nous rappelle. Dieu nous donne un encouragement éternel et une bonne espérance à travers ce que Christ a accompli. Et cette bonne espérance, à cause de la résurrection, c'est une espérance qui est éternelle, frères et sœurs. C'est une éternance qui est une espérance du côté de Dieu qui ne peut pas diminuer, qui ne peut pas augmenter. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Et j'espère encore une fois que c'est votre conviction ce matin, que c'est cette espérance que vous avez dans votre cœur ce matin et que le Saint-Esprit le confirme dans votre cœur ce matin. Tu m'appartiens, ton espérance est éternelle parce que tu as cru à ce que Christ a accompli sur la croix, parce que tu as cru en la résurrection des morts. Et je l'ai dit il y a quelques semaines, hein, les premiers chrétiens, les chrétiens de l'Église primitive, ne disaient pas quand ils rencontraient des gens qui croyaient à la crucifixion de Jésus, ils disaient, nous croyons en la résurrection des morts. Allez dire ça aux gens à l'extérieur. C'est quoi être chrétien? Je crois en la résurrection des morts. Il y en a qui vont se moquer de vous. Les gens vont dire, oui, mais il n'y a jamais personne qui est venu de l'autre côté. Oui, il y a Jésus. Ah oui, mais ce n'est pas pareil. C'est ça que les gens disent. Ah, c'est pas pareil, Jésus. Ah non. Mais non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas croire en Jésus. Mais si je leur disais que moi, je suis ressuscité des morts, les gens me poseraient des questions. Mais quand on parle de Jésus, non. Alors, on voit tout ce combat spirituel. Mais les chrétiens du siècle, du premier siècle, disaient, nous croyons en la résurrection des morts. Et un des sujets préférés de Paul, c'était de parler de la résurrection des morts. D'ailleurs, il dit dans Corinthiens que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les pires des hommes. Notre foi est vaine. Nous vivons des temps extrêmement difficiles, tant au niveau économique, social et spirituel. Si nous jetons un regard sur les différents événements survenus récemment, nous ne pouvons pas dire si les jours et les mois qui vont suivre ou qui sont devant nous seront plus calmes que ceux que nous venons de passer. Qui peut le prédire? Frères et sœurs, nous sommes certains que ce que Dieu a prévu, c'est ce qui arrivera. Et il est réconfortant, il est encourageant d'avoir la certitude que Dieu a continuellement les yeux fixés sur nous du début jusqu'à la fin. Nous pouvons donc marcher avec assurance parce que nous savons que la colonne de feu et de fumée qui a guidé Israël ne nous abandonnera pas, que la manne ne cessera jamais de tomber et que le rocher qui nous suit ne cessera jamais de couler pour que nous puissions nous y abreuver. Lorsque Dieu dit qu'il aura les yeux fixés sur nous, il veut dire qu'il sera toujours avec nous et qu'il prendra soin de nous tout au long de sa vie. La troisième chose qui a frappé mon attention dans ce texte au verset 12, c'est le mot éternel. C'est pas un Dieu qui a été fabriqué par les hommes, c'est-à-dire une statue qui n'a aucun pouvoir et qui ne peut rien faire pour nous, mais c'est l'Éternel, dit Moïse, c'est l'Éternel qui a continuellement ses yeux fixés sur lui, sur nous. Celui, c'est celui qui n'a jamais vu le jour, mais qui a toujours existé, puisqu'il est l'Éternel. Et qui continuera d'exister éternellement. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Et Dieu voyage en éternité. Frères et sœurs, vous ne savez pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Encore moins l'année prochaine avec toutes les prédictions qu'on a. Mais Dieu connaît toutes choses d'avance. Essayez de vous imaginer, Dieu connaît toutes choses d'avance. Vous ne pouvez pas revenir dans le passé. Dieu peut reculer le plus loin possible dans le passé. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Dieu peut même revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé avant. L'éternité, c'est humainement, on est humainement incapable de décrire à quoi correspond l'éternité. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Et Dieu nous dit, dans Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel. » Vous savez ce que ça veut dire, ce frère et sœur? Ça veut dire que Dieu n'a jamais commencé à vous aimer et que Dieu ne cessera jamais de vous aimer. Ça veut dire vous avez été dans le cœur de Dieu depuis toujours. Ça veut dire qu'à la croix, quand Christ est mort, il avait vos noms, il avait mon nom sur la croix. Et si j'avais pu être là à ses pieds, il m'aurait dit, Jacques, c'est pour toi que je meurs. C'est pour toi que je donne ma vie. Frères et sœurs, si vous aviez été là, vous aussi, il aurait cité vos prénoms et il vous aurait dit la même chose. Tu ne le mérites pas. Le malfaiteur ne le mérite pas, mais je le fais parce que je t'aime. Je le fais parce que je veux que tu passes l'éternité avec moi. Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Quel grand Dieu nous avons. Il est devenu non seulement notre Dieu, mais à travers cette relation personnelle que nous avons, le privilège d'avoir avec lui. Il est aussi devenu notre Père. Et ce Père, c'est celui qui est tellement grand que la parole nous dit que le ciel ne peut le contenir. Et pourtant, il a accepté de venir sur la terre dans la personne de Jésus-Christ pour que tous ceux qui croient en lui deviennent ses enfants. Maintenant, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est que j'aimerais lire le verset à l'envers. Excusez. Oh, je vais fermer le micro. Fonctionne, hein? Je vais vous rassurer tout de suite, je ne cherche pas à tordre les Écritures, mais imaginons que le texte serait écrit de cette façon. Les yeux du peuple de Dieu sont continuellement fixés sur lui, du commencement jusqu'à la fin de leur pèlerinage terrestre. Pas les yeux du Seigneur sont continuellement fixés, mais les yeux du peuple de Dieu sont continuellement fixés sur l'Éternel, du commencement jusqu'à la fin de leur vie. Bien-aimés, si Dieu s'engage à fixer continuellement sur nous son regard tous les jours de notre vie, à combien plus forte raison devons-nous continuellement fixer les nôtres sur lui? afin de toujours nous rappeler ce qu'il a fait pour nous et ô combien nous dépendons de lui en toutes choses, frères et sœurs. Car lorsque Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il voit? Je vais vous dire, rien. S'il nous regarde en nous-mêmes, rien, car nous sommes tellement indignes qu'il puisse porter son regard sur nous. Heureusement qu'il nous voit à travers son Fils Jésus-Christ, heureusement. Maintenant, à l'opposé, lorsque nous portons nos regards sur lui, qu'est-ce que nous voyons? Il y en a qui ont eu le privilège de voir Dieu par la foi pendant des années à travers la prière, comme un homme parle à son ami. Mais j'ai de la difficulté à comprendre que nous nous limitons à le voir si peu souvent. Vous est-il déjà arrivé de vivre toute une journée sans Dieu, frères et sœurs? Peut-être pas totalement, parce que vous n'aimeriez pas aller travailler sans lui avoir fait une petite prière en vous levant le matin. Mais ne vous est-il jamais arrivé, suite à votre temps de prière, d'avoir eu l'impression de ne pas avoir vu Dieu? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas seulement de se mettre à genoux et dire quelques prières, quelques paroles à Dieu et se relever ensuite pour débuter votre journée. Mais vous est-il arrivé tout au long de votre journée d'avoir vécu loin de Dieu? Nous vivons dans un monde étrange. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent satisfaire quelqu'un. Et pourtant, pour une raison ou pour une autre, il nous arrive d'oublier les choses qui pourraient nous rendre heureux. Et trop souvent, nous continuons à fixer nos yeux sur ces choses frivoles et les soucis de toutes sortes qui nous distraient dans ce monde. Nous finissons par nous coucher le soir sans avoir goûté à son amour durant la journée. ce qui est beaucoup préférable à tout ce que le monde peut nous offrir, frères et sœurs. Et nous terminons la journée par une prière qui n'en est pas vraiment une. Car que pouvons-nous lui dire le soir avant d'aller nous coucher s'il a été absent dans notre vie pendant toute la journée? Je crains qu'il soit possible de vivre non seulement des jours, mais des mois à ce rythme destructeur. Après tout, qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? N'est-ce pas la présence du Seigneur en nous, frères et sœurs? Il n'en est pas ainsi avec celui qui vit dans le monde. Il peut vivre sans Dieu comme le cochon qui s'est rassasié des fruits du caroubier, qui s'allonge, qui s'endort, qui se réveille pour recommencer à manger. Mais nous, frères et sœurs, qui appartenons au Seigneur, nous ne pouvons pas vivre de carouble parce que nous avons un estomac qui est différent de celui du cochon. Et si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, nous sommes malheureux, car Dieu a décrété que l'homme ne peut pas vivre heureux sans lui. Amen. Si vous et moi, nous aspirons à vivre heureux sans Dieu, nous serions franchement mieux de vivre dans le monde et dans le péché. C'est pas facile, Hélène, hein? Essayez d'être heureux en pratiquant une religion sans Jésus. Il est tout à fait impossible pour un vrai chrétien d'être heureux si Christ n'est pas présent dans sa vie. Nous devons voir le Seigneur Jésus dans nos vies, où nous sommes les plus misérables des hommes, nous dit la parole à travers l'apôtre Paul. Imaginons que nous décidions d'avoir les yeux fixés continuellement sur Jésus, d'être toujours conscient qu'il nous voit. Imaginons que nous décidions d'être toujours sensibles à sa présence, plus encore d'avoir toujours envie de l'obéir à sa parole et de témoigner de Jésus-Christ lorsque l'occasion se présente. Quelle chose merveilleuse ce serait, n'est-ce pas? Quelle chose ce serait merveilleuse lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on puisse lui témoigner de l'espérance qui nous anime. Quelle chose merveilleuse ce serait lorsqu'on rencontre les gens et qu'on les voit qui sont perdus pour l'éternité avec un châtiment éternel qui les attend. Quelle chose merveilleuse de pouvoir nous mettre à la place de Jésus et de voir, je veux dire le mot, et de voir ces gens qui sont condamnés à aller en enfer pour l'éternité parce qu'ils vivent sans Christ et sans Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur soit loué d'avoir eu cette compassion pour les perdus. Que le Seigneur soit loué d'avoir vu lui-même de là-haut que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Et qu'il est le premier à s'être lancé dans la moisson, à ouvrir les portes à l'évangélisation. Que Dieu soit loué en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous croyons en un grand Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons. Et même au-delà de ce que nous pensons, pourquoi ne pas s'attendre à de grandes choses à lui à chaque jour qu'il nous donne de vivre sur la terre? Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez, dit Jésus. Et frères et sœurs, Jésus était clair, demandez, vous recevrez. Mais il nous dit, vous demandez, vous ne recevrez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous ne recevez pas parce que vos intentions ne sont pas bonnes. Il nous donne en plus toutes les raisons dans la parole pourquoi on ne reçoit pas. Mais nous, on cherche d'autres moyens. Hein? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, je ne suis pas certain que c'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, quand on demande quelque chose qui va glorifier uniquement le Seigneur, vous pouvez être certain que Dieu va répondre. Mais Dieu d'abord regarde au cœur de celui qui demande. Est-ce que nos cœurs sont purs devant Dieu? Est-ce qu'on exige des choses à un Dieu qui est gracieux? Ou si on vient le supplier en disant, « Seigneur, aie pitié de moi. » Aie pitié de moi, Seigneur. Écoute ton enfant qui vient te parler ce matin. Écoute ton enfant. Seigneur, je viens devant toi sur une promesse. Demandez et recevez. Et tu viens recevoir. Et tu m'as dit que tu veux que tous parviennent à la repentance. Alors je te prie pour mon dernier fils. Je te demande de le sauver. Et Seigneur, je sais que je vais recevoir. Parce que tu es fidèle et juste, non seulement pour pardonner, mais aussi pour sauver. Tu es fidèle et juste à ta parole. Et s'il y a des parents ici que leurs enfants ne sont pas tous sauvés, criez au Seigneur pour que Dieu demande au Seigneur, « Seigneur, sauve mon enfant. Sauve mon enfant, Seigneur, rajoute-le à ton royaume. Et je te le demande sur la base de tes promesses, Seigneur. Et s'il y a quelque chose en moi qui t'empêche de réaliser cette promesse, Seigneur, mets-le en lumière, que je le confesse, Seigneur. Seigneur, si tu n'es pas le premier dans ma vie, bien Seigneur, je te confesse. Enlève les idoles qui sont dans ma vie parce que Seigneur, que mon enfant soit sauvé, c'est la chose la plus importante pour moi. Et je sais que ça va te glorifier, Seigneur. Et non seulement je veux garder cet enfant pour moi, Seigneur, mais je veux te le consacrer pour que tu puisses l'utiliser, non seulement ce qu'il vient à l'église le dimanche matin pour s'asseoir et écouter ta parole, mais qu'il puisse être un outil favorable entre tes mains pour en amener d'autres à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je connais mon Dieu, je ne le connais pas comme je devrais le connaître, mais je sais que Dieu va se laisser convaincre par ce genre de prière, parce que Dieu veut que tous parviennent au salut. Et j'espère que dans cette salle ce matin, vous n'êtes pas encore privé, vous ne vous êtes pas encore privé de ce salut que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Vous entendez la parole dimanche après dimanche. Et si le Saint-Esprit parle à votre cœur ce matin, criez dans votre cœur, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu va répondre à votre prière. Demandez qu'il vous sauve ce matin là où vous êtes. Et Dieu va répondre à votre prière. Seigneur, sauve-moi parce que je réalise que je suis perdu. Que je ne suis pas sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Je suis sur le chemin large qui mène à la perdition. Seigneur, sauve-moi. Je me considère comme une bonne personne, mais ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Il n'y a aucune bonne œuvre que je peux faire qui va effacer un seul péché. Dieu va répondre à cette prière. Imaginons maintenant qu'on efface complètement le texte. Et on va terminer. Je pense qu'on termine avec ça, oui. Non pas que nous pouvons effacer le texte ou que nous oserions le faire si nous le suivions, mais simplement imaginer que ce verset que nous avons lu, le verset 12 ici, soit effacé, qu'il n'est pas dans la Bible, et que vous et moi, nous devrions vivre toute l'année sans que les yeux de Dieu soient sur vous et sur moi. Imaginez qu'il n'existe pas. Imaginez qu'on ne sait même pas que Dieu a les yeux fixés sur ses enfants, parce qu'on ne l'a pas le verset 12. C'est-à-dire que nous ne trouverions aucun moment particulier où nous aurions la certitude que le Seigneur veille sur nous ou qu'il manifeste sa bonté envers nous, et ce pendant les mois et les mois qui viennent. Imaginez qu'il n'y a personne que nous puissions appeler parmi ceux que nous connaissons pour nous aider. Quelle supposition malheureuse, n'est-ce pas? Cela signifie que nous ne pourrions nous baser sur aucune promesse, sur aucun secours spirituel, aucun réconfort, aucune aide pour nous consoler. Si Dieu a disparu et qu'il n'existe pas, parce que c'est ça le texte qui nous dit. Dieu, l'Éternel, a le regard fixé sur ses enfants du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire à chaque jour de leur vie, jusqu'à la fin de leur pèlerinage. Frères et sœurs, nous ressemblerions à un enfant qui a perdu son père. Nous serions sans défense, semblables à un arbre qui manque d'eau pour nourrir ses racines. Et pourtant, c'est le cas pour vous qui ne connaissez pas Dieu ce matin. Vous savez que vous avez déjà vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans sans Dieu, sans prier, sans foi, sans espérance. Et pourtant, si vous commencez ce matin à prendre la décision, à prier aujourd'hui, je crois que le Seigneur vous entendra à chaque fois. Je crois même qu'il veillera sur vous et qu'il vous bénira si vous le cherchez. Mais si vous méprisez sa bonté, vivre sans communion avec lui, vous êtes alors toujours sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Et il en sera ainsi tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas pris cette décision pour lui. La scène se passe au milieu des années 60. Un pasteur raconte qu'il se promenait tôt le matin lorsqu'il croisa un homme qui se rendait à son travail. Il le salua en lui disant « Quelle belle journée! Comme nous devrions être reconnaissants au Seigneur pour toutes ses bontés! » L'homme répondit qu'il ne connaissait pas grand-chose concernant Dieu. « Pourquoi? » demanda le pasteur. « Je suppose que vous remerciez continuellement Dieu pour votre femme et pour vos enfants. »« Non, » répondit l'homme. « Je ne savais même pas que je devais le faire. »« Quoi? » dit le pasteur. « Vous ne priez jamais. »« Non, » répondit l'homme. « Voici, je vais vous donner une pièce de 50 cents. » Je suis sorti quand même un 2 euros pour que vous soyez capable de le voir. « Je vais vous donner une pièce de 50 cents. »« Si vous me promettez que vous ne prierez jamais, » tant et aussi longtemps que vous vivrez. « Oh, dit-il, je serais très heureux de recevoir cette pièce de 50 cents pour pouvoir prendre quelques bières. » Bon, aujourd'hui, au prix qu'il y ait la bière, on aurait passé les 50 cents, mais on recule les années 60. Hein? Les années 60, ça coûtait 10 cents, un verre de bière. 10 cents. Alors l'homme prend la pièce de monnaie. Il promet de ne jamais prier tant et aussi longtemps qu'il vivrait. Il quitta le pasteur pour aller travailler. Mais après quelques heures, il se dit en lui-même, « C'est quand même bizarre ce que j'ai fait ce matin. J'ai accepté de l'argent venant d'un étranger et j'ai promis de ne jamais prier tant et aussi longtemps que je vivrais. » Il réfléchissait à ce qu'il avait fait et il se sentait de plus en plus mal à l'aise. À la fin de la journée, il rentre à la maison, il dit à sa femme, il raconte à sa femme ce qui lui était arrivé le matin. « Eh bien, Georges, dit-elle, tu peux être sûr d'une chose, la personne que tu as rencontrée ce matin, c'était le diable. Et tu as vendu ton âme au diable pour 50 cents. » Le pauvre homme était tellement affecté qu'il ne savait plus quoi faire. Il ne faisait que penser à ce qui lui était arrivé. Il avait vendu son âme pour de l'argent et il savait que bientôt il finirait en enfer. Torturé, il commença à fréquenter une église. Même si malgré tout, il était persuadé que cela ne servirait à rien, puisqu'il avait vendu son âme au diable. Un jour, alors qu'il assistait à un culte, un prédicateur invité apportait le message. Il reconnut que l'homme qui prêchait était celui qui autrefois lui avait donné la fameuse pièce de 50 cents. Il est fort possible que le prédicateur l'avait aussi reconnu, puisqu'il prêchait sur le texte « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Le prédicateur disait qu'il connaissait un homme qui avait vendu son âme autrefois pour 50 cents dans son message. Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus, le pauvre homme se lève précipitamment, va en avant et dit, « Reprenez cette pièce de 50 cents, reprenez-la! » Vous avez dit que vous ne prieriez jamais, dit le pasteur, si je vous donnais 50 cents. Voulez-vous maintenant prier? Oh oui, je donnerais le monde entier pour pouvoir prier. Cet homme avait agi comme un insensé en vendant son âme pour une pièce de 50 cents. Chers amis, est-il possible que parmi nous, certains soient encore plus insensés que cet homme? Car vous n'avez jamais reçu 50 cents de quelqu'un. Et pourtant, certains d'entre vous, vous ne priez jamais. Et j'oserais même dire que vous ne l'avez jamais fait et que vous risquez de vous perdre à tout jamais. Parce que vous n'avez jamais cherché Dieu. Peut-être que si je pouvais rendre ce texte négatif, je vous dirais, les yeux de Dieu ne seront pas sur vous du commencement jusqu'à la fin de l'année. Et Dieu risque de ne pas vous entendre et ne pas vous bénir. Ne laissez pas une telle malédiction reposer sur vous ce matin, car vous pourriez mourir cette année, et je peux même mourir aujourd'hui. Chers amis, si vous avez un vif désir de chercher dans votre cœur le Seigneur Jésus, Dieu vous entendra. Il se laissera trouver, il vous bénira, et il vous accordera son salut. Terminons en examinant le texte de la façon dont nous devons le faire. Chers amis, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez vous attendre à vivre des épreuves et à rencontrer des difficultés de toutes sortes, mais que votre cœur demeure dans la joie et dans la paix, parce que Dieu a promis qu'il aurait les yeux fixés sur vous du commencement jusqu'à la fin, sur ceux qui lui appartiennent. Voilà où se trouve votre certitude ce matin, voilà où se trouve ma certitude ce matin. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ promet qu'il ne vous laissera pas et qu'il ne vous abandonnera pas. Dieu dit, « J'aurai continuellement les yeux fixés sur vous du commencement à la fin de l'année. » Il ajoute dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et ce matin, Dieu vous invite à vous décharger de tous vos fardeaux. Je vous invite à fermer les yeux, à baisser la tête. On va prier.